Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Raphaël, comment ça va?
Bonjour Serge, ça va super bien aujourd'hui.
Oui, magnifique, c'est bien. Alors qu'on a une actualité un petit peu lourde, un peu difficile, mais on va être dans la légèreté et dans la culture aujourd'hui. On reçoit aujourd'hui Yves Goldstein. Bonjour Yves.
Bonjour Serge, bonjour Raphaël.
Bonjour Yves.
Raphaël, tu nous présentes un peu Yves Goldstein, notre invité d'aujourd'hui.
Écoute, aujourd'hui on est ravis parce que Yves Goldstein, c'est un personnage fascinant par sa personnalité et par son parcours. Il est officiellement administrateur délégué de la fondation Canal. Et qu'est-ce que c'est Canal ?
Rien à voir avec la télévision.
Absolument rien à voir avec la télévision. C'est la transformation de l'immense garage Citroën de la place de l'Isère, soit 35 000 mètres carrés, en une institution culturelle dédiée à la création artistique sous toutes les formes. Et on est ravis parce que c'est un des projets culturels les plus grands et les plus ambitieux d'Europe qui se construit en ce moment.
Place de l'Isère, c'est à Bruxelles, près de la rue Neuve, c'est ça, près de la rue Neuve.
Exactement.
Hein. Pas très loin de la rue Neuve, le long du canal.
Le long du canal, d'où le nom. Canal.
Pas loin de Sainte-Catherine, donc vraiment dans le bas de la ville, à la frontière entre la ville de Bruxelles et Molenbeek.
Et il y avait quoi là avant ?
Un garage Citroën.
Un grand garage Citroën.
Et avant que ça soit un garage Citroën, quand André Citroën lui-même a racheté le terrain fin des années 20, c'était où il y a le showroom, le bâtiment iconique sur le Square Saint-Étienne, il y a aussi tous les ateliers arrière. C'était le premier Luna Park de Bruxelles, le premier parc d'attractions de Bruxelles
qui était
là jusqu'en 1932-33.
Et garde alors, vous allez garder un parc d'attractions, un Luna Park dans le futur canal.
Non, pas un parc d'attractions, mais on va entre autres avoir dans les espaces du musée une plaine de jeux pour les enfants. Mais pas de parc d'attractions.
Il ne faudra pas mettre un euro pour pouvoir jouer à un jeu électronique.
Non, il faudra mettre quelques euros pour rentrer voir les expositions.
D'accord.
Alors, Yves Goldstein, en quelques mots, on va y revenir évidemment pendant toute l'émission. Ça va ressembler à quoi le projet Canal ?
Alors, le fait que la région ait acheté en 2015 le garage Citroën, qui fait 40 000 mètres carrés et non 35...
On n'est plus à 5000 mètres carrés.
Effectivement, 5000 de plus, 5000 de moins,
franchement.
C'était l'idée de faire un projet assez ambitieux. La plupart des musées qui se construisent, et il y en a très peu qui se construisent en Belgique ou en Europe, voire dans le monde, la plupart des musées qui se construisent font entre 10 et 15 000 mètres carrés. Et j'ai envie de dire, c'est des musées classiques. Que l'on connaît tous pour celles et ceux qui visitent des musées d'art. En tout cas, on rentre. Une petite librairie, parfois une petite cafétéria, un vestiaire, on prend son ticket et on rentre dans les espaces d'exposition. Profitant d'un bâtiment de 40 000 mètres carrés, ce qu'on n'aurait jamais construit, aucune institution publique, même privée, ne construit aujourd'hui de musée de 40 000 mètres carrés, c'était l'idée de changer un peu la nature du musée. Et la particularité de Canal va être d'avoir un musée, d'être un musée dont le centre de gravité ne sont pas les espaces d'exposition, même si on aura près de 12 000 mètres carrés d'espace d'exposition, c'est-à-dire un peu moins que le Centre Pompidou à Paris, mais un peu plus que la Tête Moderne à Londres.
D'accord, donc il vous en reste
le MoMA à New York.
38 000, non, 28 000.
Donc 12 000 mètres carrés, moins 40 moins 12, 28.
Exact.
Je suis en train de faire les additions et les soustractions de ma fille qui est en
qu'est-ce qu'il va y avoir dans les 28 000 mètres
justement,
carrés
justement, c'est là où il y a le centre de gravité, près de 20 000 mètres carrés des 40 000 vont être dévolus à de l'espace public, gratuit, ouvert, accessible. Donc l'idée de Canal, c'est créer une sorte de musée-ville, une ville dans la ville dédicacée à l'art et la culture, mais où les Bruxelloises et les Bruxellois, comme tous nos visiteurs belges ou étrangers, pourront avant tout bénéficier d'un espace pour venir se promener, pour venir manger un bout, pour venir à la boulangerie, pour venir écouter une conférence dans l'auditorium, pour venir dans un atelier pédagogique, pour venir voir une performance, un film, de la danse, du théâtre, de la musique, et même pour venir voir une exposition. Mais l'idée, véritablement, c'est avant tout d'offrir un espace aux Bruxellois, leur permettant gratuitement de profiter d'une infrastructure culturelle avec, évidemment, énormément déjà de commandes, voire d'expositions dans l'espace public et donc une grande accessibilité. C'est tout le leitmotiv de ce projet. Le projet est né d'une utopie à Bruxelles que l'art et la culture peuvent être un langage universel dans une ville cosmopolite aussi diverse que Bruxelles. Plus de 180 nationalités, plus de 105 langues parlées à Bruxelles. Là où nous sommes, le canal, le cours d'eau, on le sait, à Bruxelles est une ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest de Bruxelles depuis toujours, avec un Ouest beaucoup plus populaire.
Et vous êtes à l'Est ou à l'Ouest ?
On est du côté Est,
okay.
Mais on a un petit bâtiment du côté Ouest.
Ils ont un pont.
Et il y a quelques passerelles.
Ils ont un checkpoint Charlie.
C'est tout l'idée, non pas un
checkpoint. Justement,
c'est que les gens rentrent librement et de manière totalement gratuite dans le bâtiment. Mais c'est l'idée que l'art et la culture peuvent rassembler dans une ville où on a besoin et de culture, mais aussi et surtout de vivre ensemble. On a besoin, avec une société aussi fragmentée, aussi cosmopolite, que les gens se reparlent, revivent ensemble, et pas seulement les uns à côté des autres. Et l'art et la culture sont ce langage universel qui devrait permettre ça.
Alors Yves Goldstein, vous nous avez déjà donné énormément d'informations, énormément d'éléments sur le projet Canal. On va revenir après, on va rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, du combien, du tout. Avant ça, on aime bien toujours, ici à Mythe de Boss, parcourir, regarder un petit peu votre histoire, ce qui vous a permis et ce qui vous a amené, vous personnellement, à devenir aujourd'hui le boss du projet Canal. Ça commence où, comment, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes trouvé là où vous êtes aujourd'hui ?
Alors la première chose, c'est deux passions, deux amours. Le plus grand, c'est l'amour de Bruxelles. Je suis né dans cette ville.
Un vrai Bruxellaire, donc.
Un vrai Bruxellaire. À l'hôpital Cavel, comme beaucoup de monde,
comme beaucoup de gens.
Né à Uccle sur ma carte d'identité. En l'occurrence, mes parents vivaient dans le Shtetl de Forêt, mais c'est pas très loin de Cavel. Né à Bruxelles et depuis toujours un amour de cette ville, souvent critiqué, souvent mal perçu, souvent comme beaucoup de villes d'ailleurs où l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On aime bien faire du tourisme à Paris, à Londres, à New York, etc., etc., à Amsterdam, mais les Bruxellois ne voient pas toujours, et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manque et d'ambition et de fierté des Bruxellois par rapport à cette ville. Donc l'amour de cette ville et donc l'amour de penser qu'il était nécessaire que Bruxelles, capitale de l'Europe, puisque c'est un paradoxe, Bruxelles n'a aujourd'hui pas de musée d'art moderne et contemporain, alors que c'est depuis près de 20 ans une des villes européennes les plus dynamiques en art et en culture.
Elle en a plus de musée d'art moderne.
Elle en a plus depuis 20 ans. Disons que les musées royaux des beaux-arts avaient une aile consacrée à l'art moderne et contemporain.
Un sous-sol même.
Vous n'allez pas dire
où elle était, mais une aile principalement moderne, au demeurant. Les musées royaux des beaux-arts, qui ont une magnifique collection d'art ancien et d'art moderne, ont très peu investi dans l'art contemporain. Or, si Bruxelles aujourd'hui a une force majeure en termes artistiques, c'est la création contemporaine qui se passe aujourd'hui dans Bruxelles. Les centaines et centaines d'artistes qui vivent à Bruxelles, du monde entier d'ailleurs, depuis 2018, on constitue une collection, puisqu'on crée un musée, donc on crée aussi une collection. On a fait le choix.
Je vous coupe parce que c'est l'une des premières fois qu'on a eu ça, c'est je ne dois plus couper personne. Notre invité s'auto-coupe. il sabote lui-même sa propre réponse.
Donc l'amour de Bruxelles. Donc, voilà.
Numéro 1, l'amour de Bruxelles, et ensuite
l'amour de l'art.
L'amour de l'art.
Je ne l'ai jamais pratiqué. Je suis moi-même pas artiste, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas évidemment, mais je ne suis pas artiste. Je ne suis pas historien de l'art, donc je ne viens pas du milieu de l'art. On en parlera certainement, mais professionnellement, avant Canal, toute ma vie a été consacrée à la politique.
Partons de là, si vous voulez bien. Regardons un petit peu comment. Donc, on peut être passionné d'art, passionné de Bruxelles, arriver là où vous êtes. Quel est le chemin ? Donc vous commencez, vous êtes né à Bruxelles.
Je suis né à Bruxelles.
Premier élément déjà très important. Et ensuite ?
Et ensuite j'ai commencé
l'école, l'université. Comment ça se passe ? C'est où ? C'est quoi ?
L'école, c'est d'abord l'école maternelle des Sept-Bonniers, dans la rue où mes parents habitaient. La crèche des Sept-Bonniers d'ailleurs, juste en face, un peu avant la maternelle. Et puis mes parents m'ont changé de l'école maternelle des Sept-Bonniers pour Bétavif, qui venait de se créer. J'étais parmi les premières classes arrivées à Bétavif, début des années 80, vers les années 85, je pense, si je calcule bien. Et là, j'ai fait toutes mes primaires à Bétavif, et puis j'ai choisi, je ne sais pas si c'était un bon ou mauvais choix, mais enfin, ça ne m'a pas porté préjudice, d'aller à Maïmonide ensuite, aux grandes dames de mon papa d'ailleurs. Mais donc j'ai été à Maïmonide, principalement pour les amis et pour les copains que j'y avais par ailleurs.
Et là, vous commencez à avoir une éducation artistique. Vos parents vous poussent, ils vous font jouer d'un instrument, ils vous donnent un crayon.
Mon papa a essayé de me faire jouer de la clarinette à l'âge de 13 ans, mais c'était une catastrophe. En tout cas pour les oreilles de celles et ceux qui m'écoutaient. Je joue encore un peu de flûte à bec, mais ça c'était obligatoire à Bétavif, et j'ai continué à aimer la flûte à bec par ailleurs, ce que je joue encore de temps en temps. Non, mon premier premier amour de l'art, c'est la littérature et la musique. Passionné de musique classique au départ, principalement grâce à mon papa que j'ai forcé à m'amener à l'âge de 8 ans voir la flûte enchantée à l'Opéra de la Monnaie, souvent aux Beaux-Arts, grand amoureux du violon, du son du violon, du chant du violon, parce que je considère qu'un violon ça chante. Je préfère d'ailleurs la musique sans paroles, même si j'ai choisi deux morceaux avec des paroles pour cet après-midi.
On y reviendra.
Et la littérature, la philosophie, les essais dans un premier temps, et puis le roman dans un autre temps. Je suis un dévoreur de livres, je lis entre 2 et 4 romans par semaine. C'est un impératif pour mon équilibre intellectuel et mental. Et donc, effectivement, depuis tout jeune, emmené dans les musées par mes parents, dans un second temps avec ma femme et aujourd'hui avec ma fille. Et donc, toujours été un amoureux des musées, ce qui m'aurait pas poussé naturellement, nécessairement, je veux dire, à m'occuper de Canal. Mais c'est vrai que dans mes dernières fonctions, sur lesquelles on va revenir, en politique, j'ai pu combiner à travers Canal ces deux passions qui étaient l'art et
reprenons le fil chronologique des choses.
Bétaville.
Vous quittez Bétaville, vous allez à Maïmonide. Vous quittez Maïmonide, vous allez à Roulement de Trambour, l'ULB, pour étudier
le droit.
Le droit.
Donc, je suis juriste, spécialisé en droit public et en droit constitutionnel.
Le droit mène à tout, comme dirait Olivier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il aime bien dire ça quand quelqu'un fait du droit.
Donc c'est mieux de le dire sans T.
J'ai dit mène à tout, mais non, mène à tout, en fait.
Et pourquoi vous choisissez le droit? Vous dites, moi j'adore l'art, vous auriez pu faire, je sais pas, histoire de l'art ou...
Mon premier rêve, c'était de faire la philo.
Oui.
Et
vous avez abandonné votre premier rêve.
J'ai abandonné mon premier rêve, mes parents me faisant comprendre qu'il valait mieux faire des études qui amènent à un boulot. et j'ai fait le droit, ce que j'ai adoré. J'ai adoré le droit. Je l'ai jamais pratiqué. J'ai jamais été avocat. J'ai jamais été juriste en entreprise. J'ai directement, de la fin de mes études, passé en cabinet ministériel, ce qui m'a amené ensuite à faire 17 ans de cabinet ministériel, dont 8 ans de directeur de cabinet. Et j'ai vécu cette passion de l'art parallèlement à ma vie professionnelle. En même temps, pour revenir quand même quelques instants à Canal avant de revenir à ma vie d'avant, je ne suis pas directeur artistique de Canal. Donc mon boulot à Canal, en tant que chargé de mission du gouvernement bruxellois et administrateur et délégué de la fondation, donc de l'institution qui porte le projet, n'est pas du tout de faire la curation du projet, même si je travaille beaucoup avec les curateurs sur les projets qu'on va faire pour qu'ils soient en adéquation avec mon projet philosophique d'un musée ouvert et pour tous et pour toutes. Mon rôle est de surtout réussir la transformation, ce qui est à Bruxelles, transformer un bâtiment de 40 000 m² en une autre chose, et pas un projet on aboutit tous les jours. Et donc ma mission, c'est véritablement la transformation du garage en musée, mais ce n'est pas de faire la programmation artistique et culturelle.
Ça veut dire qu'on touche à tout en faisant ça. Il y a aussi bien des éléments architecturaux que des éléments de concept par rapport à la circulation dans l'endroit, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir à être la personne la plus qualifiée pour ça, j'ai envie de dire? Mais pas parfois, vous vous dites pas parfois, mais qu'est-ce que je fais là?
Alors, je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour ça. Il en reste pas moins que quand je dis je, c'est surtout avec aujourd'hui mon équipe, l'ensemble de l'équipe de Canal, on va réussir en un peu moins de 9 ans à partir de rien et ouvrir un des plus grands musées de Belgique. Oui. Et un des plus grands musées d'art moderne et contemporain d'Europe.
Alors, avant ça, parce que Serge, vous avez quand même fait un fast-forward là.
Oui, non, mais on va
était quand même
à la chronologie,
intéressé par ce que vous faites après l'université. Vous êtes diplômé en droit.
Oui.
Et là, vous allez dans un cabinet ministériel. Pourquoi vous êtes allé là?
Alors, j'aurais pu parler d'une de mes troisième passion, qui est la politique, depuis tout petit. Né en 1988, quand j'avais 10 ans et quand j'ai vu apparaître sur l'écran de télévision de mes parents la tête de François Mitterrand devenant président de la République, enfin redevenant président de la République, c'est pour son deuxième mandat. Et dès l'âge de 10 ans, je me suis passionné de politique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas que je le mets un peu de côté, cette passion-là, mais on parlait de Canal, mais c'est vrai que la passion de la politique a toujours été une passion pour moi depuis tout jeune. Ce qui a fait que dès l'âge de 16 ans, aussi à travers le mouvement de jeunesse, la Chomer Hatzair, et dans un second temps, les jeunes socialistes, le mouvement national des jeunes socialistes et la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, je me suis très vite impliqué de manière militante dans la vie de Bruxelles, dans la vie du socialisme bruxellois, d'abord des jeunes socialistes et puis du parti socialiste. Et donc, mes 5 ans d'université, j'ai pas été très souvent au cours, ce qui m'a pas empêché de
réussir. Et vous faisiez quoi alors quand vous n'alliez pas au cours?
Deux choses, principalement militant étudiant. Donc j'ai été pendant 2 ans représentant des étudiants de la faculté de droit au conseil d'administration de l'ULB, pendant près de 5 ans représentant des étudiants de la faculté de droit au conseil facultaire de la faculté de droit, donc beaucoup de militantisme étudiant.
Et à l'époque, c'était quoi la cause qui vous tenait à cœur en tant que militant?
L'accessibilité aux études. On va pas parler du décret paysage.
Non, on n'en parlait pas.
Mais l'accessibilité aux études et entre autres en droit. À l'époque, ça n'existe plus et je fais partie de ceux qui se sont battus pour que ça s'arrête et on a gagné. Il y avait ce qu'on appelait le test de PAC en première candi. C'était encore des candi à l'époque. Maintenant, on dit bachelier, je crois.
Et on disait encore PAC à l'époque.
Test de PAC en candi. C'est un autre temps que les jeunes ne comprendront pas s'ils nous écoutent cet après-midi. Il y avait un test de PAC. En droit, il n'y a jamais eu 2 sessions d'examen à l'époque. On n'avait qu'une session d'été, enfin de mai-juin, pas en janvier. Et il y avait un test de PAC à Pâques qui déterminait si on avait accès ou non à la première session d'examen. Et donc, ceux qui rataient le test de PAC étaient renvoyés directement en deuxième session. Ils n'avaient pas 2 chances en termes d'examen. Et avec les étudiants du conseil facultaire, on a construit un mouvement de combat de ce test de PAC, dont on a obtenu la mort d'ailleurs à l'époque. Et donc, oui, l'accessibilité aux études, la démocratisation de l'ULB dans le rôle que les étudiants pouvaient y jouer, même si l'ULB, depuis 1968, était une institution déjà très ouverte dans sa gouvernance aux étudiants, mais tout ça me motivait très très fort par rapport à la présence des étudiants dans le rôle qu'ils jouent, pas seulement de venir dans les auditoires pour étudier et puis passer des examens. Et parallèlement à ce militantisme étudiant, c'était mon militantisme de jeune socialiste, puisqu'à l'époque j'étais secrétaire général de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes et secrétaire international du mouvement national des jeunes socialistes. Et donc tout ce temps-là faisait que j'allais très peu. Alors les TP étaient obligatoires, les examens aussi, évidemment.
Et là, vous êtes déjà dans un mode un peu compétitif, parce que vous dites, voilà, je suis déjà secrétaire national, secrétaire général. C'est quoi? Donc vous êtes élu, vous devez faire des campagnes, vous devez défendre des idées. Comment ça fonctionne?
Alors je déteste la compétition, donc c'est pas compétitif, mais effectivement, un mouvement démocratique, comme l'était encore, je pense, ça fait longtemps que j'y milite plus, le mouvement des jeunes socialistes, effectivement, tous les X années, il y avait une élection des postes pour le président, le secrétaire général, le secrétaire politique, le ceci, le cela. Et alors, faut pas dire aussi la vérité, on était une bande d'amis. Alors c'est pas pour ça qu'il y avait pas parfois des courants, c'est-à-dire qu'on a milité ensemble, on a structuré cette fédération bruxelloise des jeunes socialistes avec quelques amis, et donc les choses se faisaient de manière très facile. Après ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut être plus d'accord sur certaines choses, moins d'accord sur d'autres, et donc des courants se créent. Et quand il y a des élections, il y a pas qu'un seul candidat. On n'était pas dans un mouvement de jeunesse stalinien ou
trotskiste ou maoïste. Donc
j'ai chaque fois été élu, campagne interne, etc. Après, j'ai fait des campagnes, des vraies campagnes, comme j'étais candidat à certaines élections à partir de 2003. Mais donc voilà. Donc ça a été.
Et donc vous finissez vos études, votre militantisme, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes appelé, quelqu'un vous téléphone en vous disant, Yves, on a un job pour toi?
Alors, c'est pas une histoire que tout le monde connaît, mais enfin, mes proches le savent. Mais donc, moi, mon rêve, entre autres, du fait de mon militantisme étudiant, c'est d'être resté à l'ULB. J'aime bien rester longtemps quelque part, militantement parlant. Pas au niveau du job, même si j'ai fait 17 ans de cabinet ministériel, mais je pense qu'il faut pouvoir changer aussi. Donc mon rêve, c'était, comme j'étais resté à la Chaumière encore 5 ans pendant mes études, ah oui, ça je rajoute en plus, parce qu'en plus de mon militantisme étudiant et politique, j'ai continué comme Boguer pendant 5 ans à la Chaumière pendant les
L'idée, c'est vraiment de vous impliquer, d'avoir cette implication dans le temps, on vous sent très investi en fait.
Toujours, mais ça c'est mon côté militant, et même parallèlement, j'étais administrateur du CCLJ, membre du bureau directeur du CCOJB, enfin voilà.
Mais par rapport à Canal justement, on en revenait là-dessus, c'est peut-être la réponse, ou la meilleure réponse à ma question précédente, de savoir qu'est-ce qui fait de vous la personne la plus à même de faire en sorte que le projet aboutisse. Votre niveau d'implication et votre résilience et votre implication jusqu'au boutisme.
Quand je suis passionné et motivé, il faut se lever tôt beaucoup pour m'arrêter. Donc ça, c'est vrai. Ma femme peut en témoigner. Par ailleurs. Non, c'est vrai que quand je crois en quelque chose et quand je pense que, et pas jamais seul, collectivement, que c'est ce qu'il faut faire, j'ai toujours l'ambition d'y arriver. Je n'aime pas m'arrêter en chemin. Et donc, l'UNIF, j'avais vraiment envie de continuer. J'avais réussi d'ailleurs au conseil facultaire, pour la première fois de l'histoire de la faculté de droit, de faire une alliance entre le corps scientifique et le corps étudiant contre les professeurs, contre le corps académique, pour faire passer des décisions au conseil facultaire. Et donc j'étais pas mal ami et lié avec pas mal de membres du conseil du corps scientifique, c'est-à-dire les assistants, les chercheurs, etc., etc., pas ceux qui sont nommés comme
profs. Et vous les quittez finalement.
Et donc je dépose un projet de thèse. J'avais envie de faire une thèse à l'ULB, de rester encore quelques années
pour
avec
rester,
une bourse.
Vraiment.
Une thèse sur la Commission européenne, est-il un pouvoir exécutif dans l'Union européenne ? Donc c'était en droit constitutionnel européen. Et au moment où je suis en examen et que j'ai déposé mon dossier de thèse, effectivement, on m'appelle du cabinet de Loretta Unkelings pour rejoindre son cabinet pour 6 mois. Il se fait que quand j'ai fini mes études, on était à l'été 2001. Et au 1er juillet 2001, la Belgique prenait la présidence de l'Union européenne, comme elle l'a d'ailleurs pour le moment, jusqu'à la fin du mois de juin. Et chaque cabinet ministériel des vice-premiers ministres, dont Loretta Unkelings était, vice-premier ministre PS, avait droit à un renfort pour la présidence européenne d'un juriste pour travailler sur les directives que dans le Conseil, en l'occurrence elle était à ce moment-là ministre de l'Emploi, dans le Conseil emploi et affaires sociales qu'elle présidait en tant que ministre belge de l'emploi, d'un renfort de 6 mois pour travailler sous des directives.
Et le renfort, c'était vous.
Et j'ai été ce renfort-là, et au lieu de rester 6 mois, je suis resté 17 ans. Donc c'est un peu comme l'atomium qui devait être là pendant l'exposition universelle de 58 et qui est là maintenant depuis 70 ans.
Et vous trouvez quoi, avant de passer au premier type de musique, vous trouvez quoi dans cette vie politique à ce moment-là, vous trouvez une réponse à votre militantisme justement à la fois socialiste, à la fois un peu la
totale
en fait.
Socialiste et internationaliste, parce que c'est vrai que je peux rajouter encore une autre passion qui a toujours été les matières européennes et internationales, d'où mon poste aussi de secrétaire international des jeunes socialistes.
Et donc c'est un écho, vous trouvez un écho positif à ce moment-là à ce que vous cherchez.
Et manière assez surprenante pour moi, une manière très très rapide de passer du militantisme, on brandit le poing, on écrit des résolutions, des textes et on dit qu'il faut faire ceci, cela, à la possibilité de le mettre en pratique. En fait, j'ai très vite, parce que, bon, il se fait que le mari de Loretta Unkelings m'avait repéré dans son cours de droit constitutionnel, Mark Huytendaal, et c'est par ce biais-là que j'ai été appelé par le cabinet de Loretta Unkelings. Quand Laurette m'a engagé, j'ai Laurette qui est devenue une amie, évidemment, depuis maintenant près de 25 ans de connaissances ensemble, quand Laurette m'a engagé, elle ne savait pas du tout que j'étais secrétaire international des jeunes socialistes ou secrétaire général de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Elle était encore liégeoise. Elle est arrivée quelques temps après politiquement à Bruxelles.
C'est bien tombé.
Ben, les astres se sont bien alignés. Et donc, très vite, son chef de cabinet de l'époque, Jean-Claude Marcourt, qui est ensuite devenu ministre wallon pendant très longtemps, m'ont, après quelques mois, demandé de rester après pour m'occuper plus seulement des directives européennes de la présidence, mais de tous les sujets internationaux du cabinet, parce qu'en tant que vice-première ministre, non seulement elle avait un cabinet fonctionnel pour l'emploi, mais aussi un cabinet de vice-premier ministre. Et les cabinets des vice-premiers ministres ont comme principale fonction de négocier les positions du gouvernement sur tous les autres points qui ne concernent pas le ministre en question. Et donc j'ai passé de nombreuses milliers d'heures à négocier les positions de la Belgique dans les conseils européens, à l'ONU, dans les sommets internationaux de l'OMC et autres. Et donc j'ai très vite pu, quelque part, mettre en pratique mon militantisme, alors d'un angle de négociation avec d'autres partis. Et donc, quand je suis arrivé en 2001, la majorité, c'était avec le MR, le VLD et le socialiste flamand. On n'est pas toujours d'accord entre la gauche et la droite. Et donc, il y avait des débats assez forts. Je me souviens de quelques intercabinets d'ailleurs sur les matières économiques. Ça, c'était plus tard. Avec l'actuel président du MR, on avait des débats épiques sur certains sujets idéologiques. Mais oui, ça a été pour moi une capacité à passer du déclamatif au réel et à la négociation qui pouvait avoir un impact. Et ça a été un vrai bonheur.
Alors avant de voir quelle passerelle on va jeter entre votre vie et votre carrière politique et le projet Canal, on va passer par une première interruption musicale. Vous aviez donné 2 titres. Lequel des 2 voulez-vous écouter ? On a Radiohead avec Let Down et on a Nick Cave and the Bad Seeds avec Jubilee Street.
Oh, ça peut être dans cet ordre-là. Allez. Les 2 sont aussi déprimants les uns que les autres.
C'est vrai, alors
on va les passer vite.
On va déprimer avec Radiohead d'abord. Radiohead et on coupe le son au niveau du stream pour des problèmes, des questions de droit d'auteur. Et voilà, on plane, hein, on plane avec ce morceau. On plane avec ce morceau de Radiohead. Alors, on reçoit aujourd'hui Yves Goldstein, qui nous fait le plaisir du projet de CEO du, si, pas CEO, d'ailleurs le directeur, le boss,
administrateur délégué
du projet Canal. Alors, on s'est quitté sur une carrière un peu politique, ou une carrière, même pas un peu, ou une carrière carrément politique. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte une carrière politique, qu'on bouge pour aller vers un projet comme celui, comme le projet Canal? Et comment est-ce qu'on arrive à être la personne qui représente ce projet?
Bah, le premier mouvement, ça a été de passer du niveau fédéral au niveau régional. Alors, je vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais enfin, on sait que le niveau fédéral, on le voit tous les jours aussi par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, évidemment en Israël, les affaires étrangères, le premier ministre, les matières régaliennes, la justice, l'intérieur, donc des choses extrêmement importantes, mais dont souvent on est parfois loin des réalités très concrètes des citoyens. Et passer au niveau régional, et surtout le niveau régional bruxellois, je pense, pour connaître quelques amis en Flandre et en Wallonie dans la politique, évidemment, le niveau régional flamand et wallon, c'est pas encore la même chose, parce que le territoire est énorme, c'est plein de villes, c'est plein de villages, etc. Ici, le niveau régional bruxellois, c'est gérer une ville, en fait. C'est une sorte de grand majorat d'une grande ville, gérer Bruxelles. Et donc, la ministre-présidence de la région bruxelloise, dont j'ai été pendant un peu plus de 4 ans le directeur de cabinet, de Rudy Vervoort, c'est vraiment un cockpit de gestion urbaine d'une ville, de ses 19 communes, de son entité régionale. Et donc ça, déjà, ça m'a fait passer de matière internationale européenne, même si sur la fin, chez le RED, je faisais plus que ça, parce que j'ai été son directeur adjoint en charge de toutes les matières vice-premières, à directeur de cabinet du ministre-président. C'est évidemment rentrer dans le cockpit de la gestion d'une ville.
Et c'est un choix que vous faites de passer comme ça?
Non, on me l'a proposé. En politique...
Mais, ok, on vous l'a proposé, mais vous étiez une victime consentante.
Plus que consentante. C'était un bonheur pour moi, la région bruxelloise. J'ai parlé tantôt de ma passion pour Bruxelles, qui est là présent dans mes gènes depuis ma naissance. Passer au levier régional et directement, parce que j'avais pas fait de cabinet régionaux avant, directement au cabinet du ministre-président et comme directeur de cabinet du ministre-président, c'est évidemment presque la quintessence de toutes mes passions qui étaient réunies dans un métier.
C'est marrant parce que beaucoup auraient pu voir ça comme étant un mouvement en arrière, de dire ben où je suis à un niveau fédéral, où je veux partir vers l'international, partir vers l'Europe en tant même que spécialiste du droit européen. Ouais. Et vous avez tendance à dire non, moi ce que je veux justement, c'est aller plus près des gens, de la ville, de l'action.
Plus près de l'action et plus près de ma passion. Alors l'Europe et l'international sont des passions, mais quand on en fait pendant près de plus de 10 ans, on voit bien que certes on peut être un maillon important ou un maillon qui peut permettre à la marge de changer des choses, mais quand dans la vingtaine ou trentaine, j'ai pas compté de sommets européens que j'ai fait avec les différents premiers ministres belges sur les 12 années où j'étais chez le Red Unkelings, voilà, on arrive à faire changer un mot, une phrase dans un texte de conclusion européenne. Ça peut faire changer des choses, mais ça fait pas changer la face du monde.
Et vous pensez que vous avez plus d'impact à ce moment-là au niveau régional?
L'impact, et puis surtout m'occuper de ce qui est vraiment ma passion première d'entre toutes, qui est Bruxelles. Et Bruxelles, c'est vraiment une ville qui mérite tellement plus et tellement mieux que ce qu'elle avait été, et même que ce qu'elle a aujourd'hui, que c'était un bonheur.
On va y revenir. Moi, je veux revenir, je vous presse, hein, parce que sinon on parle plus. Hein. Il parle comme un politicien, c'est incroyable. Donc, je reviens sur la raison. Donc, vous passez d'abord du niveau du fédéral au régional. Quand vous êtes au régional, vous arrivez chef de cabinet de Rudy Vervoort, et là, à un moment, il vous dit, tiens, il y a un truc qui est disponible, il y a un truc qui se fait, il y a un projet là autour de ce garage Citroën. Comment ça arrive?
C'est moi qui l'ai porté depuis le début comme chef de cabinet. Okay. Donc c'est moi qui ai proposé au ministre-président d'en faire un point fondamental de sa future politique.
Mais avant de le porter, juste pour comprendre comment ça naît, vous passez devant un garage Citroën et vous dites on va faire un musée là, ou il y avait quand même des gens qui avaient déjà eu cette idée là.
Alors non. Alors comment ça naît? Ça naît d'abord alors c'est un peu particulier, mais ça naît d'abord d'une réforme institutionnelle. En l'occurrence, la 6e réforme de l'État.
On va pas en sortir de ce truc fédéral, régional,
institutionnel. La 6e réforme de l'État portée sur les garages Citroën.
Je pensais qu'on parlait d'un musée aujourd'hui.
Mais vous n'êtes pas sans savoir, de même que nos auditrices et nos auditeurs, qu'en Belgique, la culture n'est pas une compétence des régions, mais une compétence des communautés. Donc en Belgique, à part quelques musées fédéraux, les les pouvoirs politiques porteurs de projets comme culturels et artistiques, ce sont les communautés, la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. Donc normalement, la région Bruxelles-Capitale ne peut pas faire de culture. Sauf que la sixième réforme de l'État, en 2012, après les 534 jours sans gouvernement, les fameux 534 jours sans gouvernement, a reçu, et on s'était battu à quelques-uns, dont moi d'ailleurs, mais aussi une série de forces culturelles bruxelloises, pour donner la possibilité à la région de porter des projets biculturels, c'est-à-dire bilingues à Bruxelles. Parce que le problème des projets portés par la communauté française...
C'est qu'ils n'ont qu'une seule langue.
Ils sont soit francophones, soit néerlandophones. Or, Bruxelles, c'est plus une ville où c'est soit francophone, soit néerlandophone. D'ailleurs, aujourd'hui, plus de 50% de la population de Bruxelles ne parle ni enfin, nativement, en tout cas, ni français, ni néerlandais.
Donc, avançons. Donc, on reçoit
cette
réforme. Vous dites, tiens, on reçoit cette compétence.
Rudy Vervaud devient ministre-président en 2013, et moi, son directeur de cabinet, et je lui dis que je pense, parce qu'ayant négocié la sixième réforme de l'État par ailleurs, que la région devrait s'emparer de cette compétence pour créer, entre autres, un musée. On avait deux grands projets un peu symboliques à l'époque dans sa première déclaration gouvernementale, la création d'un musée d'art moderne et contemporain et d'un grand stade. Le dernier n'a pas vraiment atterri jusqu'à aujourd'hui et le musée d'art moderne et contemporain est en phase d'être construit sur l'ancien site Citroën. Donc ça, on est en 2013 et dans la première réunion, la fameuse séminaire d'Ostende où Rudy Vervaud a amené tout son gouvernement, il arrive à aligner tout le gouvernement derrière cet objectif que la région bruxelloise porte la création d'un musée. On ne sait pas encore où.
Vous savez pas encore où. Donc, ça aurait pu être à Tour et Taxi, au Ezel.
Peut-être à Tour et Taxi, certainement pas au Ezel, parce que, en disant qu'on veut, que la région veut créer un musée d'art moderne et contemporain, le gouvernement affirme aussi qu'il veut le faire le long du canal.
Pour dynamiser.
Pour des raisons de vivre ensemble et de travailler
ce
à cette zone
au début,
de la ville.
Effectivement.
Pour créer des liens entre l'Est et l'Ouest de Bruxelles. À ce moment-là, on se met à la recherche d'un lieu. Et, puisque Rudy Vervaud est aussi, en plus d'être ministre-président, ministre de l'urbanisme et du développement territorial, donc c'est le ministre qui délivre les permis d'urbanisme à Bruxelles, nous apprenons via notre réseau de promoteurs, d'entrepreneurs, d'architectes avec qui nous travaillons au quotidien dans ces compétences d'urbanisme, nous apprenons que Citroën voudrait vendre son garage.
Donc ça appartenait à Citroën, l'entreprise de
Citroën
fabrication automobile.
France. J'ai été, en tant que chef de cabinet, pendant près d'un an, plusieurs fois à Paris, négocier
le rachat.
Avec Citroën, le rachat. Donc c'est moi qui, au nom de la région, ai négocié le rachat du garage pour le compte de la région. Et pour la petite histoire, il y avait un concurrent contre nous, c'était Ikea. Je suis pas sûr qu'ils auraient fait un projet aussi intéressant et patrimonial que ce que nous faisons avec la création d'un musée à la place du garage Citroën. Et donc,
c'est l'option pour la cave encore peut-être.
Il y a pas de cave,
un express,
mais il y a pas beaucoup de cave. Donc on crée, on décide d'acheter le garage Citroën et on négocie avec Citroën pendant un an. Et à partir de là, on se demande ce qu'on va faire dedans, parce que la région n'a jamais construit de musée, n'a jamais créé de musée, n'a pas de collection, ça n'a jamais...
Et quand vous dites on décide, c'est, vous avez...
Le gouvernement, Bruxelles.
C'est le gouvernement, et il y a une majorité parlementaire qui doit aussi approuver ce...
Non,
ce...
le gouvernement.
Le gouvernement peut décider d'acheter un garage.
Tout à fait.
Pour faire un musée dedans.
Pour faire un musée dedans.
Parfait.
Après, le Parlement est évidemment concerné par le vote annuel du budget qui permet d'allouer les moyens nécessaires.
Et puis ça s'inscrit dans une politique générale.
Qui passe le
vivre ensemble.
Du gouvernement, du Parlement à chaque déclaration.
Et donc une fois que vous l'avez acheté, vous savez pas ce que vous allez faire dedans?
Si.
Ok.
On sait ce qu'on va faire, mais on sait pas si on ne va faire qu'un musée. Et donc là, on lance une étude, dont je présidais le comité de pilotage aussi en tant que directeur. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce projet-là.
Vous commenciez à mettre vos pieds dedans.
Ouais. Avant de passer officiellement de ma fonction politique à celle de chargé de mission pour le gouvernement de ce projet. Et on lance un marché public. Et c'est une association d'un bureau de Rotterdam, d'un bureau bruxellois qui gagne ça. Et on travaille à une étude. Et parallèlement à cette étude, vous savez que le premier rêve qu'on avait quand on a pensé ce projet, le ministre-président et moi, c'était de... évidemment de faire un win-win. On en parlait tantôt, les musées fédéraux ont fermé depuis un certain nombre d'années à l'époque, et maintenant plus de 20 ans aujourd'hui, l'Orel consacré à l'art moderne et contemporain. Et on s'est dit, nous on veut, région bruxelloise, investir un lieu, investir un espace le long du canal, et en l'occurrence dans le garage Citroën, pour faire de l'art un levier d'y vivre ensemble. On n'a pas d'œuvres, les musées fédéraux ont des œuvres et ils les montrent pas. Faisons un win-win, la région construit, transforme le garage en musée, le fédéral vient avec ses œuvres et on refait un beau projet belge, fédéral, région, etc. Là, on l'a pensé en 2013-14. En 2014, la NVA arrive au pouvoir, au niveau fédéral, et la ministre en charge des institutions muséales, ce qu'on appelle la politique scientifique, dit hors de question de collaborer avec Bruxelles. Donc on se retrouve face à un projet qui était facile à faire, enfin facile, c'est pas facile à faire, mais où c'était clair. la région investit un lieu, le crée, le fédéral vient avec ses collections, avec l'élément substantiel des collections, des expositions qui n'est plus là. Et c'est là que commence un autre chemin que j'ai piloté aussi en tant que chef de cabinet de ministre-président, c'est la négociation de notre partenariat avec le Centre Pompidou.
Parce que là, en fait, vous avez le lieu, mais vous avez plus d'œuvres, puisque les œuvres fédérales.
On n'en a jamais eu, mais on avait des accords sur les œuvres belges.
Oui, vous pensiez prendre des œuvres belges.
Pour des questions politiques belges, en fait. Pour des questions de politique interne. Pour des politiques
belges, la NVA qui veut pas collaborer avec la région.
Et donc vous dites, on va aller à Paris chercher, le Centre Pompidou.
Et donc on se dit, il y a deux options. Soit on fait pas le projet, ce qui à Bruxelles aurait été 99% des cas. Soit on le fait et on sort un peu du poteau-poteau, comme on dit, belgo-belge ou belgo-bruxellois, et on va voir ailleurs. Et via, on a créé un contact avec la direction du Centre Pompidou. J'ai en secret négocié pendant près de 2 ans avec le directeur du Musée national d'art moderne, le musée du Centre Pompidou, un cadre de partenariat qui n'a pas du tout la même nature que les partenariats que le Centre Pompidou fait ailleurs, à Malaga, à Shanghai,
à Metz, ouais.
À Metz un peu différemment, mais en tout cas à l'extérieur de la France, Malaga, Shanghai, bientôt le New Jersey et la Corée, où là la curation se fait à Paris, par des curateurs du Centre Pompidou, pour baliser un projet. On a besoin de vous pour créer ce projet, mais on a besoin de vous dans un temps déterminé, et on a besoin de vous pour nous aider dans un projet bruxellois. Et donc la grande particularité de ce partenariat, c'est que c'est à Bruxelles, à travers une direction artistique que j'ai dans la Fondation Canal, qui fait la curation des expositions, en ce compris en co-curation des expositions avec des œuvres issues des collections du Centre Pompidou.
Et donc, une fois que vous avez négocié ça, on avance et là, ça commence à ressembler au canal que vous avez décrit au début de l'émission.
Et dans le même temps de la finalisation de la négociation, je décide pour moi-même, d'ailleurs, sans me dire que j'allais faire canal tout de suite, d'arrêter la politique pour une série de raisons privées où il faudrait 10 émissions de Mythe de Boss pour...
Mais on est tout à fait disponible, on a encore notre mercredi prochain.
Pour aller jusqu'au bout de l'explication. Mais une des plus importantes, outre la naissance de ma fille dont je voulais m'occuper à plein temps, ce qui n'était pas possible avec mes fonctions politiques d'avant, puisque quand j'étais chef de cabinet, j'étais plus ou moins au bureau de 6h, 6h30 du matin à 1h ou 2h du matin pour travailler. Et ce n'est pas une vie qui permette de profiter pleinement de la naissance d'un enfant. Outre ça, j'avais aussi cette envie, à près de 40 ans, et après avoir fait près de 17 ans de cabinet ministériel, de ne plus être seulement celui qui, en haut de la pyramide, permet qu'un projet se fasse, mais de le faire moi-même, de porter un projet concret, effort, structurant pour Bruxelles, de A à Z. Et donc, dans la foulée de la décision de faire ce partenariat avec le Centre Pompidou, et après en ayant parlé évidemment et à Laurette Onkeling qui était présidente du PS bruxellois et à Rudy Vervoort qui était ministre-président, de me proposer au gouvernement comme chargé de mission pour mener ce projet, ce que le gouvernement a accepté.
Alors moi j'ai une question,
grand plaisir.
Ça ouvre quand ?
Alors, si tout va bien, ça ouvre fin 2025, donc un peu plus de 18 mois. Les gros travaux ont commencé en 2021. On a fait pas mal d'expérimentations aussi depuis 2017. Peut-être vous êtes venu voir Canal Brut quand on avait ouvert le garage brut de Citroën de mai 18 à juin 19. On a un autre projet avec un artiste suisse dans le showroom It Never Ends avec John Armleder. Depuis lors, on a fait pas mal de projets hors de nos
bâches aussi. Ouais.
On a la troisième bâche sur le showroom avec des artistes pendant le chantier. D'abord Laure Prouveau, puis Annemie van Kerkhoven et maintenant Tarek Lacrissi. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'expérimentations dans les quartiers, avec les écoles, avec des artistes, des expositions, aussi la pluridisciplinarité de la danse, du théâtre, de la musique.
Ça répond bien pour l'instant ? Dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, les gens sont là, ils sont en demande, à la fois au niveau du public et au niveau des gens.
Canal Brut a été une aventure exceptionnelle. D'ailleurs, on était une toute petite équipe encore à l'époque. J'ai quand même commencé seul et puis on était une dizaine pour faire ce projet, d'ouvrir les 40 000 mètres carrés du garage brut. Avec des œuvres du Centre Pompidou, avec des projets pluridisciplinaires, pendant 14 mois, 400 000 visiteurs.
Pourquoi pas s'arrêter là ?
Parce qu'il faut créer un musée structurel.
Oui.
Or, Canal Brut, c'était dans le garage. On n'a pas pu mettre pendant Canal Brut, par exemple, un seul tableau, une seule peinture. Puisque les tableaux, les peintures
ont besoin d'un
contrôle climatique très strict. Le plus strict étant 21 degrés, plus ou moins 1 degré, 50% d'humidité, plus ou moins 5% d'humidité. Ce sont les normes internationales. Et dans le garage brut, où on a connu des moins 5 à plus 45 degrés dans les espaces, c'était compliqué. Donc on n'a pas pu exposer de tableaux, très peu de dessins ou de photos qui sont aussi très sensibles à ces questions de lumière et de contrôle climatique. Et donc il était indispensable de manière pérenne de transformer le garage pour en faire un vrai musée.
Alors Yves Goshen, comment vous expliquez que c'est un projet, quand vous le décrivez, on a envie déjà d'être fin 2025,
d'y aller, d'avoir
je sais pas si une carte de membre, mais
une carte de
cas,
je sais pas quoi, mais on a envie d'y aller.
On a parfois l'impression que c'est un peu comme les Jeux Olympiques de Paris, c'est-à-dire en gros c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans la ville, et ce qu'on entend c'est « ah c'est cher, on n'a pas les moyens, pourquoi on fait un truc aussi gros alors qu'on peut faire un truc beaucoup plus petit ?»
Surtout ça, c'est sur tellement d'années, donc les politiques ont changé, les choses ont changé, les budgets ont changé.
Pourquoi il n'y a pas un enthousiasme populaire? Parce que ça, enfin, quand vous l'écrivez, ça a l'air génial.
Bah, l'enthousiasme populaire, on l'a eu pendant Canal Brut.
Oui. Et puis après,
400 000 visiteurs, dont 250 000 Bruxellois, donc près de un peu moins d'un Bruxellois sur quatre est venu passer à Canal Brut, que ça soit pour visiter une expo, que ça soit pour manger dans le pop-up food qu'on avait fait, pour aller au Culture Market qu'on a eu en place, pour aller voir d'un concert.
Même par curiosité, quoi, pour voir.
Pour aller voir les grandes soirées qu'on a
faites. Alors, vous avez l'impression que c'est quoi? C'est les médias, c'est vos anciens collègues politiciens qui font du bashing sur ce projet-là?
Alors, je le disais tantôt, je pense toujours qu'on a un problème de fierté et d'ambition à Bruxelles. Je pense véritablement qu'on vit dans une société, en Belgique de manière générale, de l'humilité et de la modestie mal placée. C'est très bien d'être humble et modeste, c'est indispensable en société, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas être fier de ce qu'on est, de fier de ce qu'on peut porter et fier de ce qu'on a comme ville. Et je pense qu'il y a un manque d'ambition chez pas mal d'acteurs, parfois politiques. Il y a parfois dans le monde culturel des jalousies, évidemment, puisque c'est un projet qui mobilise beaucoup d'argent. Je sais que la prochaine question, ça va être combien ça coûte.
Pas de moi.
Non, parce que nous, on a déjà lu combien ça coûtait.
Ça mobilise beaucoup d'argent. Alors, c'est un débat un peu hypocrite, parce que la région bruxelloise ne peut pas financer les autres institutions culturelles, puisqu'elles sont, par définition, monocommunautaires. Elles ne peuvent financer que des institutions biculturelles. Entre autres Canal, qui est la seule, avec la Fondation Siva, la Fondation Bruxelloise d'Architecture, d'ailleurs, qui va rejoindre le bâtiment Canal à l'ouverture fin 2025. Et donc, je pense que, évidemment, quand le monde culturel bruxellois est d'une vitalité, d'un dynamisme incroyable, entre les écoles d'art, la Cambre, l'Ergue, Site Lucas, les ELP, les écoles de cinéma, entre les galeristes qui se démultiplient depuis une dizaine d'années.
Donc
il y a un écosystème artistique et culturel très fort, et quand un game changer arrive dans le jeu de qui, ça trouble.
Ça trouble.
Et ça trouble à juste titre d'ailleurs, je comprends, et moi je suis en dialogue énormément depuis le début de ma mission en 2017 avec tout.
Mais quand vous allez dans d'autres villes comme Bilbao par exemple, qui a construit son renouveau autour du musée Guggenheim, auquel on vous a parfois comparé, on a l'impression
que c'est pas du tout le même projet.
On sait que c'est pas le même projet, mais on a comparé en tout cas l'ampleur du projet pour une ville comme Bilbao à l'ampleur du projet que vous portez aujourd'hui pour Bruxelles. Les habitants de Bilbao, j'ose pas dire les Bilbaïens, ils ont l'air fiers de ce musée.
Ben,
et ici,
je suis
c'est peut-être parce qu'on doit le faire sortir.
Je suis convaincu que d'ici quelques mois après l'ouverture, la très très grande majorité des Bruxelloises et des Bruxellois seront extrêmement fiers d'avoir un projet culturel et artistique de cette dimension dans leur ville, qui n'est pas seulement la capitale, qui n'est pas seulement Bruxelles, qui n'est pas seulement la capitale de la Belgique, mais qui est aussi la capitale de l'Europe. Et c'est indispensable aussi. Ce qui me donne, au-delà des 400 000 personnes et les 250 000 Bruxellois qui sont venus à Canal Brut, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est le travail qu'on mène depuis 7 ans avec les artistes. Parce que quelque part, ce qui est au centre d'un musée, c'est les artistes. C'est évidemment les citoyens à travers le projet sociétal qu'on veut mener, mais le cœur d'un musée, c'est les artistes. Et j'avoue que depuis 7 ans, je ne rencontre que des artistes enthousiastes à l'idée que Bruxelles se dote enfin d'un projet ambitieux en termes artistiques qui va donner une véritable place aux artistes contemporains. Il n'y a aucun lieu muséal. Il y a évidemment des magnifiques centres d'art à Bruxelles, le Wills, dont le directeur aime beaucoup critiquer Canal, mais moi j'ai toujours dit que son projet était magnifique au Wills. D'ailleurs, dans ma vie politique d'avant, c'est moi qui ai aussi permis qu'on finance ce qu'il n'arrivait pas à financer pour terminer les travaux à travers des fonds publics. La centrale, pas loin de chez nous, le Palais des Beaux-Arts, qui est un centre d'art fédéral du côté de Ravenstein. Donc, on a des magnifiques centres d'art, y compris en partie d'art contemporain, comme le Wills et la centrale, mais qui n'ont pas les moyens aussi, pas seulement financiers, mais aussi d'espace, pour donner véritablement à Bruxelles une assise muséale majeure de la création contemporaine.
Ça va nous permettre de concurrencer Paris, par exemple, en tant que destination. C'est un peu l'idée ou d'avoir des choses de l'ordre de ce qu'on peut trouver
Mais
à Paris.
Je pense que c'est toujours un faux débat de vouloir se comparer aux grandes aux très très grandes capitales.
Parce qu'ils sont à côté, quoi.
Parce que c'est une grande capitale, Londres, etc. On est beaucoup plus intéressant que ces villes-là, Bruxelles. Tout le monde le, pas tout le monde, mais beaucoup de gens le disent. Aujourd'hui, la vitalité de Bruxelles n'est pas seulement artistiquement et culturellement.
Il y a quand même moins de variété, quoi. On a quand même moins de variété.
Mais ça,
on a moins
c'est de... le biais traditionnel du Bruxellois qui croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non, Bruxelles, et je continuerai à défendre, malgré que c'est bien, malgré que c'est sale, malgré que c'est pas toujours safe, je continuerai mordicus à défendre que cette ville est bien plus intéressante, entre autres culturellement et artistiquement, que ces grandes capitales. Parce que c'est pas seulement d'avoir le Centre Pompidou, la Fondation Louis Vuitton, le Palais de Tokyo, etc., etc. Par exemple, la vitalité artistique de Paris.
Mais alors, c'est la
est
com,
bien moins développée que Bruxelles.
On a un problème de com alors à Bruxelles. C'est quoi les
de fierté C'est quoi la fierté
Mais
je
c'est
pense
plus que de la fierté. Là. Les gens savent peut-être pas ce qui existe. Quand on va à Paris un week-end, on a des choses à aller voir. On a des choses à aller voir chaque week-end. Si
je vous invite à écouter tous les Parisiens qui viennent un week-end à Bruxelles. Vous expliquer à quel point ils préfèrent passer leur week-end à Bruxelles qu'à Paris. C'est de nouveau. Je pense que nul n'est jamais prophète dans son propre ville ou dans son propre pays. Quand vous partez à l'étranger, la première chose que vous faites dans une ville, et Bruxelles est une destination de city break, de long week-end, etc., etc. La première chose que vous faites, vous partez à Bilbao, à Londres, à Amsterdam, à Rotterdam, à Marseille, vous regardez ce qu'il y a comme théâtre, vous regardez ce qu'il y a comme expo, et vous allez vous préparer un programme. Ça vous arrive souvent le vendredi après-midi à Bruxelles de regarder ce qu'il y a comme chose à faire à Bruxelles pour le week-end et de se dire que je vais aller visiter telle exposition, je vais aller voir telle pièce de théâtre ou tel concert. On a ce tropisme toujours, et c'est pas propre à Bruxelles, là, pour le coup, de toujours regarder de préparer ce qu'on va faire à l'étranger dans sa propre ville. D'abord parce qu'il y a la vie quotidienne, il faut aller faire les courses, etc., etc. Quand on est en vacances, en congé, c'est beaucoup plus simple. Mais je pense que justement, à travers Canal, qui n'est pas simplement un projet de l'exceptionnalité du musée, autrement dit, aujourd'hui, les statistiques montrent qu'à peine 10% des Belges vont au musée une fois par an. Donc 90% des Belges ne vont jamais au musée.
Et vous avez réussi, avec Canal Brut, à faire un quart des Bruxellois en une semaine.
Voilà, en 14 mois.
En 14 mois, pardon.
En une semaine, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en créant un musée d'un autre type, qui n'est pas le musée classique, comme je le disais tantôt, on prend son ticket, on met son vestiaire, on rentre dans une salle d'exposition, mais un lieu de vie. Vous savez, par exemple, qu'au cœur du musée, à l'intersection des deux grandes galeries intérieures, urbaines, gratuites et accessibles, au cœur du musée, on aura une boulangerie. Alors je sais que ça fait souvent rire quand je parle de ça, mais pour moi, le fait d'avoir décidé qu'on mettait une boulangerie au cœur du musée, c'est la signification qu'on a envie de créer un musée du quotidien, pour le quartier, pour les habitants. Le premier jour, ils vont venir parce qu'il y a du pain. Le deuxième jour, ils vont se rendre compte qu'il y a une bibliothèque publique gratuite. Le troisième jour, ils vont se rendre compte qu'il y a une exposition. Et donc, comment on amène des publics qui naturellement, soit parce qu'ils ne s'informent pas, mais surtout parce qu'ils considèrent qu'un musée n'est pas fait pour eux. Il faut bien se rendre compte qu'une grande partie de nos concitoyens
n'osent pas franchir
la porte d'un musée. Non seulement d'un musée, et encore pire, d'un musée d'art, et encore pire, d'un musée d'art contemporain, où on a la quintessence souvent de ce qui est incompréhensible selon les codes qu'on partage ou qu'on partage
alors,
pas.
On arrive vers la fin de l'émission.
Déjà
déjà. J'ai quand même une question assez rapide pour vous, et essayez de répondre rapidement, mais... Pour l'instant, vous êtes chef de chantier, donc vous essayez de sortir ce projet pour fin 2025, et on sait que c'est challenging. Une fois que ça sera ouvert, qu'est-ce qui fera pour vous que Canal est un succès ?
Alors, ce qui fera pour moi que Canal est un succès, c'est son appropriation par les Bruxelloises et les Bruxellois avant la question du tourisme international et de la visibilité internationale, et en particulier des Bruxellois qui habitent de l'autre côté du canal. C'est pour moi un élément fondamental.
De l'autre côté, par rapport à où ?
Par rapport à Canal. Je le disais tantôt, Canal est à l'Est. Le public de Molenbeek, de Laeken, d'Anderlecht, de ces communes plus populaires, plus pauvres, très diverses sur le plan
donc
philosophique.
Pour vous, ça serait un succès si effectivement vous arrivez à amener toutes ces populations dans un musée, et puis si dans le vôtre, en fait.
Sinon, il faudra faire un satellite dans le bâtiment de la KBC, peut-être, un jour.
C'est déjà une sacrée gageure de gérer à terme 40 000 mètres carrés d'espace de musée.
On n'est pas quelques milliers de mètres en plus.
Ça, il faudra le dire aux politiques régionales pour qu'ils nous donnent un peu plus d'argent. Là.
Alors, nous recevions aujourd'hui Yves Goldstein. Merci beaucoup de nous avoir expliqué en long et en large tout ça. On a, pour la première fois, je pense, de l'histoire de Mythe de Boss, pas eu le temps de faire les questions rapides.
Non, on a quand même une question des auditeurs qui demande si on peut louer l'endroit pour faire une bar mitzvah. Est-ce qu'on peut le privatiser?
Coco nous demande. Exactement. La limite, 35 000 mètres carrés, c'est limite.
C'est très limite.
Alors, oui, pour une bar mitzvah ou pour autre chose, Mais effectivement, dans notre business plan, la privatisation des espaces est une grande partie de nos recettes propres.
Parfait, vous reviendrez nous en parler. Termine avant les nouvelles, le grand journal, on termine avec Nick Cave and the Bad Seeds et Jubilee Street. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci à vous deux.